Qui est venu pour le séminaire de cette année, et je dois dire que c'est vraiment quelque chose qui ne va pas du tout de soi. Pourquoi? Parce que vous pouvez entendre, si vous avez un peu de l'oreille, qu'il s'agit de l'ordre, de l'ordre du 2, à écrire avec un chiffre, à écrire DE8, à écrire avec un D apostrophe. Et toute la question, on pourrait dire, de la vie concernant ce qu'on peut appeler comme ça, même si c'est difficile de le préciser, la vie du langage, qui n'est pas ce qu'on appelle la vie. Hein? La vie du langage, c'est autre chose que la vie. Eh bien, toute la question de la vie du langage, et notre caractéristique, c'est d'être habité par le langage et d'essayer d'habiter le langage. C'est ça qui fait la différence entre l'être parlant que nous sommes et l'animal. C'est essentiellement ça. C'est pas le fait d'avoir une âme ou pas une âme, ça c'était des débats théologiques. Pourquoi pas, hein? Et c'est très important parce que nous sommes effectivement dans un temps où ceci est censuré. Voilà, je m'explique. C'est censuré, c'est-à-dire dès qu'on parle de l'être humain, on parle des émotions, des sentiments, du vécu, de tout ce qui finalement, tout ce que connaît certainement l'animal. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Eh bien, c'est le fait que nous ayons quelque chose, un certain savoir. On pourrait prendre l'image du savoir pelliculisé, une sorte de pellicule, qui s'appelle le savoir inconscient, et que ce savoir inconscient ne peut être abordé qu'à partir du langage. Ça c'est vraiment le... On ne peut pas parler d'inconscient au sens de Freud, notamment Freud, dont le dire a été passé par Lacan. Hein, ça ne veut pas dire du tout que les psychanalystes habituellement prennent ça en compte, parce qu'il y a tout dans Freud pour en rester finalement une sorte de psychologie des profondeurs. Il y a tout, absolument. Pourquoi? Parce que Freud, tout simplement, il déchiffrait. Mais quand on déchiffre, on lit des choses, et puis voilà, il faut bien déchiffrer. Si on ne déchiffre pas, on n'avance pas. Hein? Et il déchiffrait, et puis on peut clairement dire, il défrichait. Ah, évidemment, c'est pas que de déchiffrer, il défrichait aussi, surtout. Puis il était seul. Ça nous pose des questions, pourquoi ce savoir est apparu à un certain moment, et pas un autre. Alors les historiens ont beaucoup d'idées là-dessus, mais c'est pas ça. Les historiens, ça nous ramène toujours à la question du « deux ». J'ai essayé d'en dire un peu plus, j'ai commencé à en dire un mot il y a deux jours à Paris, la question du 2. Alors, la question du 3, puisque c'est ça, chiffre de l'amour, et oui, d'emblée ça ne peut pas être l'amour tel qu'on l'appelle habituellement, c'est-à-dire le narcissisme. Hein, c'est pas je t'aime qui veut dire je m'aime, à travers toi. C'est-à-dire que nous avons été amenés. C'est pas sûr qu'un animal domestique ne soit pas comme nous, parce qu'on l'a un peu contaminé avec cette affaire-là. Nous avons été amenés à percevoir le monde d'emblée comme étant à notre image. C'est pas Dieu qui nous crée, comme il est dit, à son image. C'est nous qui créons le monde à notre image. C'est pour ça qu'on va dire que Dieu, évidemment, nous a créés à son image, évidemment. Mais vous voyez bien que c'est une projection, c'est rien d'autre, hein, évidemment. Il n'y a rien de... Hein. C'est pas du tout un crime de lèse-majesté de dire des choses pareilles. Au contraire, ça permet de se repérer un petit peu mieux. Alors, donc, notre rapport à l'Umwelt, le monde, donc, au monde, dont les philosophes ne cessent de parler, est toujours à notre image. Et quand il arrive dans cette image quelque chose d'un peu étrange, eh bien c'est l'angoisse. Voilà comment on est fait, on pourrait dire, d'une certaine façon. Et tant mieux s'il y a de l'angoisse, parce qu'au moins, on va peut-être pouvoir arriver à avancer un peu ailleurs. C'est ça l'idée de l'intérêt. Et l'angoisse est l'étrange, hein, vous connaissez peut-être le texte de Freud, inquiétante étrangeté, c'est là que... C'est 1925, Freud était déjà âgé, je veux dire, il a une longue expérience devant lui, hein, c'est pas venu comme ça. Donc, la question du 3, elle apparaît lorsque nous rencontrons... Ça ne suffit pas de dire l'angoisse, mais l'angoisse n'est pas étrangère à ça. Pour autant qu'effectivement l'angoisse, bien sûr, hein, c'est le fait qu'on perçoit quelque chose de cet étrange que Lacan appelait grand A, grand autre. Alors bien sûr, on va le personnifier, on va dire que c'est le père, c'est la mère, etc. On est déjà à côté dès qu'on personnifie. Le grand autre, c'est quelque chose qui touche la question du langage. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de personnifier, c'est-à-dire de comprendre, etc. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de tout ramener à quoi ? Eh bien, à ce qu'on appelle l'être. Et c'est terrible, parce qu'on est fait comme ça, c'est terrible de tout ramener toujours à l'être. Puisqu'on parlait de Dieu tout à l'heure, eh bien, il y en a un qu'on va mettre tout à fait au-dessus, l'être suprême. Et l'être suprême, c'est évidemment nous. C'est nous, bien sûr, qu'on a placé au-dessus. Pourquoi ? Il en résulte que nous allons l'aimer, bien sûr, et qu'il va nous aimer. Vous voyez que tout ça, on est tout dans une position, finalement, du deux, d'un univers que Lacan a nommé imaginaire. C'est pas spécialement l'image, c'est plus compliqué la question de l'image, mais l'imaginaire. Et l'imaginaire est fait pour nous endormir. L'imaginaire est d'or et il nous endort. En effet, et on est en permanence bercé là-dedans, tout ce qu'on va appeler la communication, je vais très vite parce qu'il faudrait développer ça, vous savez, la communication vise à ça, à endormir quelqu'un, c'est-à-dire à finalement quand même à l'hypnotiser d'une certaine façon, pour qu'il soit coopérant, obéissant, qu'il produise, etc. Ce qu'on essaie de dire, c'est que ça ne peut pas coller, ça ne va pas avec quelque chose de nous. On ne va pas dire le désir, c'est trop rapide. Il y a quelque chose en nous, du fait du langage, je reviens là-dessus, c'est très important, du fait du langage, il y a quelque chose qui existe. Vous voyez que existe, ça nous arrache à la dimension de l'être, et donc cister dans quelque chose, hein. Cister dans une position, ou alors là, va s'en donner à cœur joie la pensée, la cogitation. Et c'est parti. Tout le discours... Alors on peut y aller, philosophique, religieux, et là-dedans, pour dire politique, enfin le discours philosophique et religieux en principe est un peu plus élevé que le discours politique, hein. Mais tout ça c'est une façon de toujours revenir là-dessus, cogiter, c'est-à-dire qu'on se fait, c'est la dimension de la sphère que les Grecs ont très bien définie il y a longtemps, et qu'ils ont développé eux, sur le mode qu'on appelle le moré géométrico, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est lié au fait que dès que nous percevons quelque chose, nous le percevons un peu comme, essentiellement, comme étant sur un plan. Et c'est la dimension cartésienne. Même s'il y a trois dimensions, en fait, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas la profondeur. puisque la dimension cartésienne, c'est le plan. Il ne peut pas y avoir de profondeur si vous avez un plan, c'est pas possible. Alors on va même faire avec les images virtuelles quatrième, cinquième dimension, comme on les met sur un plan, de toute façon, c'est toujours du 2. La question du 3, elle est liée au langage. Alors j'ai essayé d'en dire un petit peu quelque chose, déjà ce soir, parce que ça va pas de soi, évidemment. C'est pas donné à tout le monde de l'entendre, bien sûr. Parce que pour arriver à entendre, mais je prends ce mot entendre, parce que dans mon expérience personnelle, c'est quelque chose qui s'entend. C'est pas quelque chose qui se comprend. Après coup, on pourra dire un peu quelque chose de ce qui s'est passé. Mais quand ça survient, c'est en dehors de la pensée. La pensée en elle-même ne peut pas toucher à ça. Parce que la pensée, elle est en permanence dans la... Elle se développe d'une certaine façon. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais on peut oser. Elle se développe pour en fait censurer ça. Vous voyez que je ne vais pas tout de suite dans la question de l'inconscient, parce que c'est trop rapide, autrement dit, voilà, il y a la dimension consciente, puis il y a l'inconscient, alors avec ça, on a tout défini, c'est-à-dire qu'on a pensé en deux, on a bien compris, on sait quoi on parle, moyennant quoi on est à côté, puisque la question que j'essaie de remuer devant vous, c'est ceci, dès que nous ne sommes pas dupes de quelque chose, eh bien, nous aimons. Il faut arriver à être dupe de quelque chose qui est, finalement, là, mais que nous sommes sourds et aveugles, c'est-à-dire nous ne pouvons ni l'entendre ni le voir. Et pourtant, il est présent. C'est cette dimension du 3, c'est quand même étonnant, c'est que cette dimension du 3, elle apparaît en mathématiques, dans la recherche mathématique, un peu avant la psychanalyse, pas beaucoup avant. Et c'est notamment Cantor, qui va développer ces dimensions-là, renouvelant la recherche mathématique, moyennant quoi, bien sûr, il n'a pas été compris, ce moment-là, c'est toujours comme ça, et développant, par exemple, au niveau de l'ordre, c'est le nombre ordinal, 1, 2, 3, 4, et qu'il y a autre chose que le nombre ordinal, c'est le nombre cardinal. Le cardinal n'est pas du tout quelque chose qui se déploie sur le mode de l'ordre, c'est quelque chose qui désigne, d'une certaine façon, une qualité d'un ensemble. C'est l'apparition de la théorie des ensembles. Je ne suis pas capable de vous en dire beaucoup plus par rapport à ça, parce que je n'ai pas du tout un esprit mathématique de mathématicien, encore que peut-être que si maintenant je faisais mes études, ça viendrait plus facilement, mais je n'ai pas les connaissances mathématiques. Et c'est Lacan qui fait souvent référence à ça, puisque Lacan, vous le savez peut-être, que à partir d'un certain moment, travailler régulièrement avec les mathématiciens. Alors, il va pouvoir comprendre une certaine logique, qu'il va appeler la logique du réel, et qui est ce dont on essaie de parler, ce vers quoi on essaie de s'approcher, et qui est le quelque chose qui fait que c'est pas du tout en pensant qu'on avance, c'est en écrivant quelque chose. C'est en écrivant des formules mathématiques. Un syllogisme, ça apparaît très tôt chez Aristote, l'organon d'Aristote. Il est le premier, alors il y a beaucoup de choses, c'est comme dans tout ouvrage. Il y a beaucoup de choses, ça parle de la chose très simple. Hein. Tout A égale B, alors, tout alpha égale bêta, tout bêta égale gamma, donc bêta égale gamma. Ça paraît bête. Mais dès qu'on peut poser des choses comme ça, et vous voyez qu'il y a trois termes, c'est ça la dimension du 3. Il y a trois termes, c'est pas alpha, bêta, gamma les trois termes, c'est les trois éléments de la disposition. Il y a trois termes, alors ça veut dire qu'il y en a un qui est le début, il y en a un moyen, et il y en a un terminal. Et tout est articulé au moyen. C'est parce que tout bêta égale gamma qu'on va pouvoir dire tout alpha égale gamma. Donc, toute la question, c'est la question du moyen. Et ce qui est étrange, c'est que c'est exactement comme ça qu'est foutue une phrase. Et la position de moyen dans une phrase, c'est le verbe. Il y a un sujet, un verbe, un complément. Et peut-être que l'ensemble du langage se réduit à ça. Trois éléments. n'est plus dans la psychologie, on n'est plus dans, le, dans la compréhension, comme ça, on n'est plus dans l'explication, s'il y a eu ça, c'est parce que... Alors, on est fait comme ça, on a besoin de fonctionner comme ça. Ce qui est important, c'est quand quelqu'un parle, c'est ça, c'est pas de lui dire qu'il se trompe, surtout pas, faut le laisser parler et essayer de pouvoir entendre, un peu comme à l'opéra, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est pas ce qui est raconté qui est important. En fait, lui, il le pense et c'est important. Alors, c'est, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Mais l'importance qui est en jeu, elle est dans le fait qu'il y a une certaine structuration, une certaine structure, et que quand cette structure-là du 3 apparaît, eh bien, ça peut entraîner quelque chose de jamais vu et jamais entendu. Voilà la grande question. Et on pourrait dire que la découverte de la psychanalyse, à travers ce que Freud va appeler la sexualité, qui est beaucoup plus élaborée que ce qu'on appelle évidemment la sexualité, hein, c'est pas ce qu'on appelle actuellement la sexualité, là, quand on va reprendre ça sur la question de la, du sexué, et du sexuel, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. Ça, c'est Saint Paul qui dit ça, c'est très bien. On continue à le dire, hein. Ben oui. Hein. Alors, ceux qui sont au milieu, ils n'ont pas intérêt, malgré tout ce qu'on raconte. Il faut absolument se ranger d'un côté ou de l'autre. Hein. Et voilà le deux, en exercice. Il y a le fait que dès qu'on est un être parlant, on est, si on ressort, si on sort de l'apparence physique, même d'une certaine sensibilité, c'est-à-dire que si on regarde quoi ? Ben, le soma, les cellules. Quelle différence entre les cellules d'un homme et d'une femme ? Aucune. Le germen, oui, mais le soma, il n'y a rien. Donc, même au niveau scientifique, le plus élaboré, on voit bien qu'on ne peut pas comme ça aller du côté d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes. C'est d'ailleurs pour ça que, effectivement, ben, c'est si compliqué entre l'homme et la femme. Hein, c'est pour ça, évidemment, que c'est si compliqué, qu'il se passe tellement de choses. Et que il a pu être dit que il peut y avoir un malentendu. Il peut y avoir du malentendu. Toute la question, c'est comment le malentendu qui existe peut. Alors voilà, ça c'est un peu le miracle évidemment, mais c'est aussi un événement, c'est-à-dire quelque chose qui survient par hasard, au sens où c'est pas quelque chose qui se prépare. Tout à coup, il peut se passer entre un homme et une femme quelque chose de particulier. On appellera ça de l'amour. C'est pas l'amour au sens de... Alors dès que l'amour arrive, évidemment, arrive le Harpagon et sa cassette, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'autre dans la cassette, etc. Enfin, vous connaissez ça aussi bien que moi, très bien. Mais là, on est à nouveau dans le 2. Hein? Alors, ce que j'essaie de dire, là, parce qu'il faut bien que je passe par le 2, d'une certaine façon, pour le transmettre, ce que j'essaie de dire, vous voyez, c'est que ce qui est notre singularité, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les symptômes, en général, on pourrait dire quels qu'ils soient, sont une façon, mais ça ne veut pas dire que c'est simple, hein, sont une façon à la fois de se positionner face à ce qui échappe, à cette existence du savoir. D'une part, en le fixant, alors dans un sens, dans une signification, hein, qui fait que c'est ce que Freud découvre, lorsque la signification a pu être apportée, eh bien le symptôme disparaît, mais ce qu'il va aussi découvrir, c'est que le symptôme va apparaître. C'est-à-dire que c'est en fait un effet d'hypnose, souvent, qui fonctionne pendant un certain temps. Hein. Et puis, la question, bien sûr, c'est de mettre en mouvement un processus psychique, on va dire inconscient, en sachant pas trop, on ne sait pas trop ce qu'on dit, un processus psychique qui vise à ce que, à un moment ou à un autre, on vienne toucher ça. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est cette dimension du 3. Et ça se passe. Comment ? Ça se passe dans le fait qu'à un moment, quelque chose s'écrit ou s'entend. C'est pour ça que les formations de l'inconscient, c'est juste de lapsus, qu'il s'agisse de rêve, vise essentiellement à ça. Le rêve, c'est pas l'aspect divinatoire, l'aspect de devin. C'est pas du tout ça. Freud pose cette question-là, on pourrait dire à la fin de la science des rêves, en 1900. Mais la valeur du rêve pour l'avenir, bah oui, bien sûr. À condition d'y introduire sa découverte, et il a beaucoup de mal, Freud, là. Il vient de découvrir quelque chose d'assez extraordinaire. Il est seul, La première année, il y a à peu près 150 volumes qui sont vendus de la science des rêves, ce qui n'est pas rien du tout. Alors maintenant, tout le monde a la science des rêves, bien sûr, mais quand ça sort, évidemment, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le lisent, et puis qui pensent à quelque chose par rapport à ça. Et puis, il est assez isolé et il pose cette question-là. Mais le fait qu'il pose cette question-là, c'est sans doute la question la plus importante de la science des rêves. Tout ce qu'il a dit avant, finalement, on pourrait dire, avec ça pris par ça. Ben, c'est toujours comme ça. On ne peut dire quelque chose qu'à partir de ce qui s'est passé à un certain moment. Autrement dit, on peut interpréter d'une certaine façon quelque chose que dans l'après-coup de quelque chose qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu. Voilà. Je vais probablement parler de musique, puisque c'est ce qui me paraît le plus compliqué, justement. Si vous prenez le Bolero de Ravel, vous connaissez tous ça, vous allez avoir l'impression d'être progressivement envahi par un rythme qui vous dépasse, etc. En fait, tout le déroulement avec quelque chose qui est assez facile à décrire, à savoir que c'est une sorte de flûte mise à plat, c'est-à-dire qu'il y a un thème avec un sujet, un contre-sujet, un sujet de réponse, un contre-sujet et une contre-réponse, etc. Ça fonctionne 5 fois, alors ça va dérouler un certain temps. Et tout ceci, le boléro est en do majeur, tout ceci vise à quelque chose qu'on pressent, parce qu'il y a des bémols qui arrivent, c'est dans le cadre du do majeur, il n'y a pas de bémol, il n'y a pas de dièse, hein, c'est des touches blanches. Hein. Et de temps en temps, il y a un bémol qui revient, qui arrive, mais ça revient toujours dans la tonalité habituelle. Et à un certain moment, 15 mesures avant la fin, il y a une modulation tonale. On passe tout d'un coup au mi majeur. Mais ça, il s'entend quelque chose qui dépasse tous les effets scientifiques qui pourront être dits de ça. Il y a quelque chose qui apparaît à ce moment-là. Ce qui fait que, très rapidement, peu de temps après, va arriver cet accord où finalement tout vole en éclat et le boléro s'arrête là-dessus. C'est-à-dire que tout a été, avait pour but de faire apparaître quoi ? Voilà la question, apparaître quoi ? Évidemment, Ravel n'a jamais dit ça. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui écrit de dire quelque chose d'intéressant sur ce qu'il a écrit. Or, le 2, voilà, les philosophes et tout ce qu'on voudra, ils vont passer leur temps à faire des citations. Le problème, ce n'est pas de faire des citations, on peut en avoir besoin de citations, bien sûr. Mais le problème, c'est le fait que ce qui compte, ce n'est pas ce qui est dit, ce n'est pas le dit ou les dit, parce qu'alors là, on n'en sort plus d'une part, et d'autre part, on peut dire, dédire, contredire, alors là, on peut se débrouiller comme on veut, c'est le dire. Et le dire, ça ne peut pas se dire avec un dit. Qu'est-ce que c'est que le dire ? La grande énigme qui est en jeu, dès que nous parlons, c'est que je peux très bien dire quelque chose, et en fait avoir une position, on va dire subjective, c'est un peu rapide, qui soit complètement en opposition avec ce que je raconte. Alors là, c'est même très courant, ça. C'est même tellement courant que la plupart des gens prennent le discours politique. C'est strictement ça. Alors, il ne faut surtout pas essayer de faire remarquer à quelqu'un, surtout s'il fait un lapsus. On a entendu un mot ce soir, là. Il parlait des quoi ? Ils ont dit les détenus à la place des...
C'était extraordinaire.
Des élus, quoi. Des élus. Oui. Il y a un journaliste qui dit qu'il faudrait parler des prisons. Il ne parlait pas n'importe quoi. Des élus, etc. Les détenus, ou je ne sais pas, un truc extraordinaire. C'est de la musique. Ben, c'est de la musique. C'est le fait que ça sonne, ça peut sonner pareil à un moment. Il y a une modulation tonale. Bon, je ne sais pas si c'est les élus. Enfin, il y avait du monde. Hein. Ben, les élus, évidemment. Ce qu'ils disaient, les élus, c'est ce dont on parle. Hein. Ceux qui nous ont accordé de ça, d'ailleurs, c'est très bien. Pour montrer à quel point, évidemment, ils sont détenus dans quelque chose. Mais dès que je me mets à vouloir expliquer le lapsus, c'est foutu. La modulation tonale, c'est pareil. On entend quelque chose, ça nous fait rire, et puis on passe à autre chose. Mais ça dure, je ne sais pas combien. C'est 1/100 de seconde qui est en fait, d'une certaine façon, l'ouverture à l'infini, même pas à l'indéfini, à ce 3, à cette dimension du cardinal, et non pas de l'ordinal. On est toujours en train de classer, d'organiser dans l'ordinal, premier, deuxième, troisième, etc. Et dire que le 3 introduit au cardinal, ça ne veut pas dire que c'est le chiffre 3. Bien sûr, ça peut être 3, 14, 116, etc. Ça peut être aussi 2, je ne sais plus quoi, ça me fout, je ne sais plus ce que c'est. C'est-à-dire que là, on n'est plus du tout dans la façon dont les choses sont chiffrées. C'est exactement l'inverse, c'est plutôt quelque chose qui est de l'ordre du déchiffrage. Alors, ce que j'essaie donc de vous dire, c'est l'importance. Et évidemment, je me questionne moi-même, pourquoi est-ce que je vais lui raconter des trucs comme ça? Parce que je suis bien des sœurs à raconter ça. Mes collègues, ils ne racontent pas ce que je raconte. Ah, ils vont parler des trucs, les enseignements de Lacan, l'objet A, etc. J'arrête pas de vous parler de l'objet A, bien sûr. J'ai pas besoin de le citer, là. Je crois que c'est parce que depuis 3 ans, vraiment, quelque chose au niveau de quoi ? Au niveau de ce corps que l'on fabrique quand on chante, quand on parle aussi, quand on chante. Je crois que c'est pas la voix qu'on fait. On fabrique le corps, du corps, ce que Lacan appelait l'objet petit, avec les 4 objets. C'est ça qu'on appelle le corps en psychanalyse. Eh bien, je crois que c'est ça qui doit, plus ou moins, je ne sais pas comment, mais il n'y a même pas à comprendre, me pousser dans cette direction-là. Et donc, c'est au nom de ça que je parle. J'aurais jamais pu dire ce que je vous dis il y a quelques années. Et pourtant, ça ne devait quand même pas être bien loin, puisque je le dis aujourd'hui. Voilà un peu comme on est fichu. C'est-à-dire qu'on est organisé d'une certaine façon, qui est que on est défini, limité, comme un peu ce qu'on peut voir sur un tableau, par toutes sortes de pensées, de souvenirs. Et ce qui se passe dans une analyse, c'est ça, c'est qu'on vient là-dessus, on use, l'objectif c'est d'arriver à user ça, vraiment, on va dire, en abusant du sens qu'ils ont, on en parle, on revient, et progressivement ça va finir par se poser un peu, et va apparaître ce qu'on appelle le signifiant. Et c'est plus ce qui fait signe, c'est plus le sens, c'est la dimension du signifiant. Et chacun, on pourrait dire chacun d'entre nous, alors pour des raisons très énigmatiques, a certains signifiants. Alors je vais reprendre aussi la formule, le signifiant, présente le sujet pour un autre signifiant. Le problème, c'est pas de comprendre, parce que là on va passer dans la linguistique, c'est que simplement dans cette formule-là, on sent bien quelque chose qui nous échappe. Parce que le sujet, on ne sait pas, on ne peut pas le saisir, le signifiant non plus. Alors, le signifiant présente le sujet pour un autre signifiant, c'est quoi ? On est vite arrêté au niveau de la compréhension. Je crois que le signifiant, c'est quelque chose qui se module dans la voix de quelqu'un qui parle ou quelqu'un qui chante. C'est pour ça que la psychanalyse, ça se fait en parlant. Ça se fait pour l'écrivant. C'est quand même curieux. Pourquoi ? C'est parce que, effectivement, il y a quelque chose qui se fait quand on parle, quand on pense. Oh là là ! Quand on pense au tournant, bon, c'est le disque. C'est le disque qui secourt, qui le discours, le disque qui secourt la pensée. Ce qui fait que c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil si vous pensez, si vous vous mettez à parler, si vous avez besoin de parler de quelque chose, ça ne va pas du tout produire les mêmes. Ou du moins, ce qui est attendu, c'est que ça produise autre chose. Alors, peut-être préciser un petit peu mieux ce que je viens de dire, c'est je vais un peu revenir sur quelque chose là, que j'ai mis dans l'argument, quelque chose qui est un peu particulier. Hein. J'ai parlé de la vie tout à l'heure. La vie du langage n'est pas ce qu'on appelle la vie. La vie du langage, c'est cette modulation qui peut apparaître dans la voix, certainement quelque chose qui s'entend d'une certaine façon. Eh bien, pour un peu rendre compte de ça, peut-être, pour un peu arriver à le faire saisir, je vais faire encore un pas de plus. Cette dimension du 2, débarrer du plan. C'est ce qui se passe dès qu'on fait la mise à plat de quelque chose. Et pour avancer dans cette direction, Lacan prend, vous savez qu'il a pris, il est parti d'emblée de ça à lui. Il y a du 3. Il a appelé ça réel, symbolique, imaginaire. Il y a 3. Bon. Et puis il va arriver, 25 ans après, à dire, c'est pas il y a 3, c'est que les 3 dimensions, réel, symbolique, imaginaire, fassent 3. C'est pas pareil. Et pourtant, on peut passer de l'un à l'autre. Donc le réel, le symbolique et l'imaginaire fassent 3. Alors je ne vais pas trop développer ces éléments-là. C'est-à-dire, ce qui compte, ce n'est pas que, comme on le dit souvent, que le réel soit troisième, parce qu'on retombe dans l'ordinal, là. Premier, deuxième, troisième, c'est que le réel, même si on le nomme troisième, est en fait le 3 qui est fait par le fait qu'il va être créé une consistance très particulière, on va dire une consistance. Une consistance très particulière au moment même où les 3 vont se nouer. Et le moment où les 3 se nouent, c'est un moment, évidemment c'est un point de tiraillement, et je crois que c'est ça qu'on peut appeler finalement la vie, d'une certaine façon. Alors, pour montrer un peu comment habituellement tout est articulé sur cette dimension de la mise à plat, et que si on a fait des études, si on n'a pas réussi, c'est qu'on a pu se débrouiller avec ça, sinon j'ai eu le diplôme, il hein, ne faut pas demander autre chose. Hein. Peut-être qu'un jour on a été dérangé. Moi j'ai été dérangé un jour quand il s'agissait des trois cas d'égalité des triangles. Ben, je commence à comprendre pourquoi. C'est pas du tout parce que je ne comprenais pas, il y a quelque chose que je ne pouvais pas avaler. Pourtant je comprenais. Il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre, mais on ne peut pas les avaler. Ça reste en travers de la gorge. Bon. Eh bien, j'en reviens à ça. Prenons par exemple ces trois dimensions. On les met à plat. C'est comme ça que tout est présenté, que le savoir habituellement est présenté. Alors je vais prendre quelque chose qui va un peu nous sortir de nos petites préoccupations habituelles, là, toujours un peu des références, puisque finalement c'est important. Hein. Eh bien, on a été pétri, qu'on le veuille ou non, hein, quel que soit l'endroit d'où on vient, parce qu'il y a quand même des références symboliques, on a été pétri dans quelque chose, surtout évidemment si on a été dans le christianisme particulièrement, dans quelque chose qui est que le moyen dont je vous parlais tout à l'heure, hein, bien c'est l'amour de Dieu, et ça va mettre ensemble, nouer l'imaginaire du corps et le réel de la mort. La preuve, c'est qu'à un moment, celui qui est venu, qui est le Christ, il va réaliser ça, c'est-à-dire que l'imaginaire du corps va se nouer avec le réel de la mort, ça s'appelle évidemment la mort du Christ, mais aussi la résurrection. Et tout ceci est tenu par ce moyen qui est l'amour du Christ, qui est l'amour de Dieu. Okay, à quoi ça sert de dire ces choses-là? Parce que c'est ça l'important. Ben, ça change quand même pas mal de choses. Hein. Parce que le problème, c'est plus tellement l'enfer, c'est plus tous ces trucs-là. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu? Si on met autre chose dans cette position de moyen, hein, qu'est-ce qu'il advient? Parce qu'il y aura toujours l'imaginaire du corps et le réel de la mort. Ça, toujours. Donc, comment les deux vont pouvoir fonctionner? Parce que dans l'opération chrétienne en jeu, évidemment, il y a une chose qui est éliminée, c'est le désir. Il n'y a pas de désir dans l'histoire. Hein. On pourrait dire le ressort de cette court-scène, de cette scène primitive, on pourrait dire qu'est celle qui se passe dans le paradis terrestre, c'est pas tellement que il va y avoir la chute, et puis ils vont devoir gagner, puis ils seront en état de péché, etc. Parce qu'on ne dit pas grand-chose. Parce que le péché, sauf que... Ben, il faudra nous repasser par la grâce pour en sortir. Il y a toute la théorie du christianisme autour de ça. Que d'ailleurs, les autres religions, bon, critiquer, et elles ont raison. Mais c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, faut pas croire que c'est mieux ailleurs. J'attends qu'on me. Hein. Et je vois pas pourquoi une religion serait mieux. Puisqu'une religion, elle est basée là-dessus. Sur la mise à plat de quelque chose. Avec quelque chose qui sert de moyen et qui fait tenir. Qui s'appelle Dieu, de toute façon. Hein, donc, que ce soit le judaïsme, que ce soit les musulmans, c'est, je vois pas pourquoi ce serait différent. Hein. Même si c'est pas tout à fait identique. Hein. Le problème, oui, on en a avec. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Voilà. C'est ça la vraie question. Et nous, on a adhéré comme ça à l'amour de Dieu. Quoi. On n'avait même pas à l'ouvrir, puisque finalement, il fallait prendre ça comme du lait maternel, il n'y avait rien à dire. Hein. Hein, ceux qui sont passés par là, ça, d'ailleurs, ça nous a servi, c'est pas le problème. Hein. Mais tout ça pour montrer que tout le savoir, finalement, qu'on a été amené à absorber, c'est toujours la mise à plat de connaissances. Or, la mise à plat ne peut pas apporter du nouveau. C'est-à-dire que, alors là, je vais en choquer, mais c'est pas la première fois, il n'y a pas de progrès. La grande découverte, c'est qu'il n'y a pas de progrès. Il y a de la technique de plus en plus forte, bien sûr, c'est pas ça le progrès. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont possibles. On peut faire toutes sortes de choses. Des iPods, des... C'est très intéressant, mais il n'y a pas de progrès. Il suffit d'écouter ce qui se passe. Il n'y a pas de progrès du tout chez l'être parlant. Pourquoi ? Simplement parce qu'il est pris dans quelque chose qui fait qu'il n'arrête pas de répéter toujours la même chose. Il ne peut pas y avoir de progrès. Alors, comment faire ? Eh bien, ce qu'apporte un peu la psychanalyse, entre autres, parce que j'insiste bien, il ne faut pas la placer comme un discours qui serait extraordinaire, c'est la possibilité du fait que nous habitons le langage, hein, c'est la possibilité d'aérer un peu tout ça, de mettre un peu d'air là-dedans, parce qu'on est tellement serré, ficelé dans tout ce qui nous arrive. Heureusement qu'on ne bloque pas tout ce qu'on nous raconte, tous les quarts d'heure aux informations. Qu'est-ce qu'on ferait, hein? Qu'est-ce qu'on ferait? Vraiment que ça nous tombe un peu comme la pluie sur les canards. Hein? Parce que vraiment, qu'est-ce qui passerait là? On n'arrête pas de nous arroser avec toutes sortes de trucs. Heureusement. Mais il importe de pouvoir aérer quelque chose et donner un peu de souffle un peu. Je dirais pas de vie, parce que j'ai essayé de vous dire, c'est que la vie, je pense que c'est encore autre chose. C'est de pouvoir entendre autre chose que ce qui est toujours présent dans ce qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est-à-dire qu'on nous dit, pour ça je dis à ma droite, toujours la même chose. Le bien, le mal, le ceci, le cela. Il faut pas. Et pourquoi on dit ça? La réponse, Freud ne l'a pas dit comme ça, on peut dire. Il y a des normes sociales. Et il faut bien qu'il y en ait, hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de normes sexuelles. On veut guérir tous ceux qui ne rentrent pas dans les classifications. On ne peut pas y arriver. S'il y a une chose qui est impossible à gérer pour tout un chacun, c'est ce qu'on appelle le sexuel. Je voudrais préciser les choses, hein. Impossible. Alors, chacun d'entre nous est à peu près défini par rapport à ça. Il a intérêt à rester dans les normes qui sont admises, sinon il aura beaucoup de difficultés. Hein. Mais en fait, il n'y a pas de norme du sexuel. Par définition, il ne peut pas y avoir de normes. Et le fait qu'il n'y ait pas ces normes-là, fait qu'on était amené, évidemment, à définir toutes sortes de normes. C'est-à-dire que, j'insiste bien, le sexuel, ce n'est pas la sexualité. On en parle, c'est compliqué, j'en ai déjà parlé. Hein. C'est tout ce que j'ai essayé de dire à la suite de Lacan du côté du tout homme et d'une femme, c'est quelque chose de très particulier. Mais il n'y a pas de norme, il n'y a pas d'ordre de ce côté-là. C'est quelque chose d'autre qui est à la fois extraordinaire, hein, qui fait qu'on a tellement la trouille que de toute façon on a trouvé la seule solution. La solution, c'est la reproduction, hein, bien sûr, parce que finalement, hein, qu'est-ce qui va arriver après quand on ne sera plus là, hein? Comment on va laisser une trace? Donc il y a une reproduction qui fonctionne, hein, quand on trouve un partenaire, et puis voilà. Hein, et puis avec lui, on fera un voyage, plus ou moins long, suivant les affinités. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de prise en compte, on va dire, vraiment de la question du sexuel et du désir. Et même dans nos civilisations, on va dire, telles qu'elles sont actuellement, qui sont des civilisations, je ne vais pas dire modernes, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, on va dire techniques. Même dans nos civilisations techniques, je crois qu'effectivement, ce qui est visé, c'est que chacun soit dans une mise à plat particulière qui fait que, ce qui est en train de se passer, c'est que la mise à plat, elle tient un prix. C'est-à-dire, il apparaît cette chose extraordinaire qui fait qu'on ne peut plus calculer. Il y a de l'incalculable. Et cet incalculable, il est au cœur de l'humain. Par définition même. Je ne dis pas du tout que ça explique grand-chose, mais c'est vrai qu'on a à la fois cette richesse qui est l'incalculable, qu'on peut appeler la jouissance, mais il faut bien définir les choses, et en même temps, à côté de cet incalculable, le besoin de censurer cet incalculable. C'est-à-dire quoi ? Géométrie, géo c'est la Terre, métrone c'est la mesure, on mesure, avec des calculs de plus en plus compliqués. Puis qu'à un moment le calcul se casse la figure, évidemment, c'est logique. Hein. Et ça, c'est toute la mise à plat, toute la dimension du monde. Alors qu'il y a un autre espace, un autre temps.